Alors, ce matin, j'ai le privilège d'introduire une nouvelle série. On avait fait une série sur l'argent. Et donc, j'ai pensé à une petite vidéo connue. Je me suis posé la question, où est-ce que j'ose faire ça dans une église? Finalement, oui, je me suis pris la décision ce matin. Donc, je pense que vous reconnaîtrez le passage. J'espère qu'il y a le son. Peut-être un peu plus loin, c'est possible.
Luc, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié, et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie.
Je ne serai jamais votre allié!
Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez! Il a dit que vous l'avez tué!
Non. Je suis ton père.
Non. Non. Ce n'est pas vrai! C'est impossible!
Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai.
Non! Non!
Luke, tu peux détruire l'empereur. Il l'a prévu. Tel est ton destin. Sois mon allié, et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils.
Je suis ton père. Bon, je ne sais pas si certains ne connaissent pas ce passage. Je suis allé voir Rogue One, le dernier Star Wars, avec mes enfants, un peu ma famille, pendant ces vacances de Noël. Et du coup, j'avais une question pour introduire cette nouvelle série. Pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qui pousse un Jedi à basculer dans le côté obscur de la Force? Allez, dévoilez-vous là, les fans. Oui, la peur? Non. En français, le pouvoir. Luke, tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur de la Force. Viens, on va régner ensemble, on va être les maîtres de la galaxie. La soif de pouvoir, la soif de puissance. Alors, c'est le nouveau thème, la nouvelle série, Après l'argent, le pouvoir. Donc, c'est Rodrigue, en fait, notre père, qui a imaginé trois séries comme ça. Je vous laisse deviner la troisième. Et donc là, pendant quelques semaines, on va aborder le thème du pouvoir. Alors, j'ai imaginé donc cette prédication avec plusieurs personnages, plusieurs personnes. Et le premier point que je vais voir, c'est le pouvoir et Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le pouvoir et Dieu? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais partout dans la Bible, c'est écrit que Dieu règne. C'est un peu dur de manquer ça, tellement c'est dit. Dieu fait ce qu'il veut. Il dit et la chose arrive. Et s'il décide de faire quelque chose, rien ni personne ne peut l'en empêcher. Donc on peut donner une définition du pouvoir comme la capacité de réaliser sa volonté. Et une définition de l'autorité comme la capacité d'être obéi. Alors le mot dans le Nouveau Testament, c'est exousia, et qui est traduit tantôt autorité, tantôt pouvoir, tantôt puissance. Mais Tout ça, c'est dans le même mot. Le pouvoir est Dieu. Ce qu'on peut dire, c'est que le pouvoir est un attribut divin. On parle de omnipotence. Dieu peut tout. C'est quelque chose que Dieu a fondamentalement. C'est lui qui possède le pouvoir. C'est lui qui l'a. En fait, c'est un aspect même de son caractère. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer que l'autorité, le pouvoir, c'est quelque chose que Dieu a comme il a l'amour. Dieu est amour et Dieu a l'autorité. L'autorité, le pouvoir, c'est quelque chose qui est placé à côté de l'amour, à côté de la sainteté, à côté de l'éternité, etc. C'est un attribut de Dieu. Dieu exerce ce pouvoir en particulier sur la création. Et de ce point de vue-là, on parle de souveraineté. Dieu est souverain. Ça veut dire que Dieu conduit et règne sur sa création pour la mener à son épanouissement. Il la canalise pour libérer tout afin que tout s'épanouisse. Cela implique que parfois Dieu dit non, ne fais pas ceci, parce que ça mène à la destruction. Alors si on creuse cela, je dirais que le pouvoir, l'autorité dans la création répond au besoin de la création de maintenir son ordre. Parce que la création, ce que nous sommes et tout le monde qui nous entoure, est ordonné. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on voit que Dieu met de l'ordre. Il sépare d'abord l'espace. Il met la mer d'un côté, la terre de l'autre, le ciel d'un côté, la terre de l'autre. Il sépare le temps. Il met des distinctions, il fait des jours. Et puis même, il sépare les êtres, parce que chaque être a un nom. Donc il y a de l'ordre qui s'installe. Et quand Dieu crée, il crée les choses avec une structure et un ordre. Et l'autorité a cette fonction de maintenir, de préserver l'ordre, la structure même du créé. La création a besoin d'autorité. La question qui revient très souvent, c'est si Dieu, puisque Dieu est souverain, pourquoi le mal ? Alors, c'est important d'affirmer, je veux le faire d'entrée, que Dieu est souverain, absolument souverain. C'est-à-dire que rien, absolument rien, même pas le diable, n'échappe à son contrôle. Et il permet le mal. C'est un mystère. Je crois que personne ne peut expliquer cela. Les hommes ont essayé pendant des siècles, les plus grands théologiens, les plus grands génies, comme saint Augustin, mais personne n'est vraiment arrivé à expliquer pourquoi le mal. C'est un mystère. Mais ce que nous devons vraiment garder précieusement en tête et dans nos cœurs, c'est que Dieu est souverain. Il n'y a pas d'histoire de yin et de yang, d'équilibre des forces et que le diable fait trembler Dieu. Le diable, devant Dieu, il se tait. Vous savez, il y a cet épisode au début de Job, le livre de Job où Satan vient, il est l'ennemi de Dieu, il est le Satan qui veut dire l'adversaire, il est déjà l'ennemi et il vient devant Dieu, il se prosterne devant lui et Dieu lui permet de raconter le mal qu'il fait. Mais quand Dieu lui dit « tu t'en vas », il s'en va. Le diable reste soumis à Dieu. Un de mes souhaits par rapport à cette prédication puis à ce que je prêche d'habitude, c'est que la connaissance de Dieu, de ce que Dieu est, puisse nous apaiser, puisse nous donner des limites et des repères. Savoir qui est une personne est rassurant. Connaître vraiment une personne est rassurant. À l'inverse, quand on ne connaît pas la personne qu'on a en face de soi, c'est un peu troublant. Je ne sais pas si vous connaissez cette impression d'être en face de quelqu'un, puis finalement on ne le connaît pas. Il y a une petite inquiétude qui est là. Mais Dieu se révèle et Dieu veut vraiment se révéler et que nous le connaissions profondément et ce que nous apprenons de lui nous rassure. Et ce matin, je veux dire, Dieu est souverain. Et cela, cette connaissance est là pour nous rassurer. Le pouvoir, l'autorité, c'est un thème chaud, comme avant sur l'argent. C'est un thème chaud et j'aime bien cette série qu'a imaginée Rodrigue, il prend des thèmes un peu provoques. On se demande, tiens, c'est rigolo de parler de ça dans l'église. Mais je trouve que c'est excellent, en fait, parce qu'on parle des vraies choses. Il y a des choses qui sont un peu difficiles parfois. Donc, on a besoin d'avoir des repères clairs par rapport à ce sujet qui peut être assez chaud, de l'autorité et de tout ce que ça sous-entend. Deuxième volet, après le pouvoir et Dieu, c'est le pouvoir et nous, les humains. Alors là, il y a plein de choses à dire. Je trouve que cette scène culte, mythique, de Star Wars reflète assez bien finalement ce qu'on peut voir, alors sans tout le tralala, les masques et tout, mais dans une entreprise. Dès qu'il y a 2-3 personnes, hop, tout de suite, il peut y avoir des conflits, des ambitions qui se révèlent, des rivalités, etc. Même inconsciemment. Mais c'est profondément dans notre expérience, la soif de pouvoir. Et bon, il y a plein d'explications psychologiques, tout ça, mais on sait une réalité qu'on vit quotidiennement. Que dire sur le pouvoir et les humains, et nous ? L'homme est créé, dans la Bible, pour exercer le pouvoir. Donc, avoir soif du pouvoir, finalement, c'est pas si dénaturé que ça. Parce qu'à la base, on est créé pour exercer le pouvoir. En Genèse, Dieu dit à Adam, domine. C'est son mandat, c'est sa mission, domine sur la création. Donc déjà, génétiquement, on a quelque chose, quoi. Mais, il y a un mais toujours, l'homme est aussi créé pour se soumettre. Ah, ça, c'est un mot qu'on n'aime pas. Ça gratte un peu. J'ai cherché dans la Bible, je l'ai trouvé plein de fois dans la Bible, en fait, ce mot, soumettre. Hypotasso. Ah vraiment, ça y est. Exemple, les enfants se soumettent naturellement à leurs parents. Alors, on est tous d'accord, alors même s'il y a toujours des écarts, et c'est le job des parents d'éduquer, mais naturellement, l'enfant, il se soumet. Il obéit à ses parents. Je pense que c'est... J'espère. On va devoir faire une nouvelle série, éducation. Jésus était soumis à ses parents, c'était écrit, c'est écrit. Quand il était enfant, il était soumis, c'est écrit noir sur blanc avec le mot, à ses parents. Mais l'homme aussi est soumis à Dieu. Ça aussi, c'est naturel. Nous sommes créés pour dépendre de Dieu. Se soumettre dans le sens de sans Dieu, on ne peut pas fonctionner. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ben, on sent intimement que ben, c'est bien de le faire. Et si on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse, on risque d'avoir des problèmes. On va se brûler. Donc l'homme est créé pour exercer le pouvoir et l'homme est créé pour se soumettre. Mais, et là on sait tous, qu'il y a eu un os, il y a eu un problème dans la mécanique qui s'appelle le péché. Alors le péché, fondamentalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une révolte. C'est le désir d'être autonome. Je veux être Dieu, je veux prendre les décisions que Dieu prend et décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Autonome, ça veut dire être sa propre loi. C'est-à-dire, je décide. C'est moi qui décide. Et donc le péché, c'est le rejet de la loi bonne de Dieu. C'est le rejet de l'obéissance. Et au final, c'est le rejet de Dieu. Et le problème, ben, qu'on connaît tous, qu'on vit tous les jours, c'est que le péché a ouvert une brèche dans nos cœurs et exercer l'autorité est devenu opprimé, oppressé, et a fait de l'homme un tyran. Alors, il y a des grands tyrans qu'on voit malheureusement dans l'histoire. Et puis, il y a aussi des tyrans cachés et des petits tyrans. Et je pense que personne n'échappe à ça à un moment ou à un autre dans sa vie, d'être dans cette position d'abuser du pouvoir et de l'autorité que nous avons. Donc, exercer l'autorité a basculé en oppression. Alors je prends des mots graves, mais après il y a des degrés, bien sûr. Et puis la soumission a complètement basculé en révolte. La révolte. Alors ça, c'est un... Il y a plein de choses à dire, mais je ne vais pas en dire beaucoup. Simplement, une chose qui me saoule, c'est qu'à chaque fois que je vais en Allemagne, la première chose que dit mon beau-frère, il me raconte la dernière grève en France. Et le summum, c'était quand même l'équipe de France, en Afrique du Sud, ils avaient fait la grève. Et ils se foutent de nous, les Allemands, hein, franchement. Hein, parce qu'eux, ils sont disciplinés, ils connaissent le sens du groupe et tout. Alors qu'en France, on est... On aime bien batailler avec l'autorité. Je pense qu'il en va de notre liberté un peu là-dedans. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'être en position d'autorité, être enseignant, être policier, etc., etc., c'est dur. Et quand on veut accéder à ces métiers, il faut aussi se préparer psychologiquement à faire face à cette résistance. Hein, ça fait partie de l'appel, là. Donc, si je devais juste retenir un mot pour résumer le pouvoir et nous, je dirais c'est compliqué. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Troisième aspect, le pouvoir et le diable. Alors, c'est vrai que y a le péché, bien sûr, mais il y a aussi quelqu'un qui exploite cela. C'est le diable. Alors, le diable dit à Jésus dans le désert, et je trouvais intéressant parce que la scène de Star Wars qu'on a vue a beaucoup de ressemblances finalement avec une scène dans la Bible. C'est quand Jésus est tenté dans le désert et que le diable vient et il le tente. Vous savez, au tout début de l'évangile, on trouve ça en Matthieu 5, je crois, Luc 4. Je vais lire un extrait de Luc 4. C'est le diable qui mène Jésus sur une haute montagne et il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre habitée. Et le diable dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Vient du côté obscur de la force. Le diable, c'est dingue ce que dit le diable quand même. Toute autorité m'a été donnée. Le pouvoir, l'autorité, l'exousia, toute l'exousia, le pouvoir et l'autorité qui se trouvent dans le monde a été donné au diable. La Bible dit des fois des choses dingues. Très très fortes. Jésus appelle le diable à un moment le prince de ce monde, Jean 12. Alors, le prince, c'est celui qui est en position d'autorité, mais une autorité qui est liée à ce monde. Le mot sert aussi pour désigner les chefs de synagogue et les magistrats. C'est une position de très haute dans l'échelle de l'autorité. Un autre verset encore, c'est Jean qui dit ça, 1 Jean 5. Le monde entier est au pouvoir du malin. Donc on voit que le pouvoir et le diable, y a des choses. Et il y a même des choses inquiétantes. Alors peut-être que nous, on ne le vit pas au quotidien, ça, on ne le réalise pas. Peut-être on le sait, mais c'est une connaissance éloignée. Mais c'est une réalité. Et cette réalité fait des ravages. Et quand on commence à taquiner les démons et aller dans cette zone-là, on voit à quel point ce règne, ce n'est pas juste des mots. Il y a vraiment une puissance derrière cela. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez déjà rencontré des démons. Ça vous est arrivé déjà? Alors, je pense que vous avez obligatoirement rencontré des démons. Peut-être que vous n'avez pas réalisé cela. Moi, un jour, j'étais avec un ami et il n'allait pas bien. Et puis, on s'est disputé. Et puis, à un moment, il a viré et il a dit des choses sur moi. Et tout de suite, je me suis dit, ça, c'est pas mon ami qui parle. Ça, c'est un esprit en lui qui parle. Parce que c'était tellement perçant. C'était tellement transperçant. Il y avait une puissance derrière. Juste avec des paroles, cet ami a dit des choses et je savais intimement que c'était un démon. C'est un esprit. Cette puissance est bien réelle. Elle est vraiment là. Une des tactiques du diable, c'est de se cacher en Occident. Il ne veut pas se montrer. Ah, j'existe pas. Je fais partie du folklore. C'est pour les idiots qui croient encore à Jésus et à tout le bazar. Mais c'est une réalité. Alors, comment cela est devenu possible? On peut se dire, mais c'est incroyable quand même que le Satan, le diable, il a reçu tout pouvoir sur la terre. Alors, on connaît la réponse, mais je vais quand même la dire. Le péché, c'est quoi? C'est quand l'homme quitte la souveraineté de Dieu. C'est quand l'homme quitte cette position de soumission à Dieu. Mais le problème, c'est que l'homme, il croyait être libre. Enfin, je suis libre de cet esclavage de Dieu. Et il n'a pas réalisé qu'il s'est fait complètement avoir et qu'il s'est retrouvé sous l'esclavage du diable. Et la triste nouvelle pour nous, humains, c'est qu'il n'y a pas de troisième position. Il y a soit une soumission à Dieu, soit une soumission au diable. Mais il n'y a pas de troisième voie. Donc Adam s'est fait avoir, et nous avec. De Timothée 2:24, la Bible est très claire sur ce point. Le diable tient les hommes captifs de sa volonté. Hébreux 2:14, le diable a le pouvoir de la mort. Il l'exerça sur les hommes. Il fait trembler l'homme parce que le pouvoir de la mort, c'est-à-dire la mort, c'est le péché a donné au diable un pouvoir sur nous qu'il exerce comme une oppression spirituelle sur nous. Et c'est cela qui mène les gens peut-être dans la déprime, dans la dépression, dans le côté noir, dans les tentations, etc. C'est parce qu'il y a une pression permanente sur nos vies à cause du fait que l'homme a rejeté Dieu et l'autorité et le pouvoir de Dieu et s'est retrouvé placé sous une autorité méchante, celle du diable. Donc, si je devais résumer cette situation, le pouvoir et le diable, je dirais usurpateur. Le diable a volé une position. Il a profité du péché de l'homme, du fait que l'homme soit sorti de cette protection, finalement, de ce pouvoir de Dieu, pour exercer un pouvoir. Mais il n'a pas le droit, ce n'est pas légitime, ce n'est pas à lui. Enfin, le problème, il a le droit, parce que nous lui avons donné le droit, nous, par notre péché. Quatrième point, le pouvoir est Jésus. Alors c'est beau parce que Luke Skywalker, il nous parle de Jésus dans un sens. Vous voyez ce qu'il fait à la fin? Il refuse, il décline l'offre de Darth Vader, puis il se lâche comme ça. Et donc il ne succombe pas à l'appel du côté obscur. Le diable, dans le désert, propose à Jésus tous les royaumes, tout le pouvoir, toute l'autorité sur la terre. Et Jésus lui dit « Arrière de moi ». Il le rejette, il refuse. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi Jésus refuse? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Pourquoi il refuse en fait? Est-ce que c'est par humilité? Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas le pouvoir? Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, Jésus était né pour exercer le pouvoir. Il n'y a personne de plus grand que lui pour exercer le pouvoir. Quand les mages sont venus à Jésus, ils ont offert de l'or, entre autres. Ils ont reconnu un roi. Ils ont reconnu le roi. Jésus savait qu'il était appelé au pouvoir. Jésus savait que c'était sa destinée d'exercer toute l'autorité, tout le pouvoir. Et c'est là où on voit la subtilité du diable, perfide, sa méchanceté, mais aussi son intelligence. C'est qu'il vient tenter Jésus au cœur même de son appel, au cœur même de là où est l'appel de Dieu, qui est « tu exerceras le pouvoir ». Il vient le tenter là. Ça, c'est... Je trouve que le diable est vraiment dangereux. parce qu'il sait exactement où aller. Le problème, c'est qu'il proposait à Jésus de réaliser cela d'une mauvaise manière, c'est-à-dire en se soumettant à lui et en adorant le diable. L'évangile de Matthieu, j'ai lu en Luc là, mais si on prend l'évangile de Matthieu, il est intéressant parce qu'il est un peu comme une démonstration mathématique. Vous savez que j'aime bien ça, moi. Et c'est la démonstration où à la fin on dit c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Le but de Matthieu, c'est de démontrer aux Juifs que Jésus est bien le roi attendu. Ça, c'est son but. Et donc, l'évangile de Matthieu parle de Jésus comme le fils de David. Et dans Matthieu, ça paraît plus qu'ailleurs. Les mages cherchent le roi des Juifs. Le roi Hérode, il flippe quand il voit Jésus parce qu'il voit en lui un rival. Et donc, du coup, il tue tous les autres enfants. Dans l'évangile de Matthieu, l'évangile s'appelle l'évangile du royaume, etc., etc. Jérusalem l'accueille comme un roi, il est condamné en tant que roi des Juifs. Donc il y a tous ces éléments qui sont éparpillés dans l'évangile de Matthieu. Et l'évangile de Matthieu culmine à l'affirmation, et c'est dans les derniers versets de Matthieu, et c'est le verset sur lequel je veux m'appuyer ce matin. C'est Jésus, après la crucifixion et après sa résurrection, il apparaît à ses disciples. Il les rassure, c'est bien moi, touchez-moi et tout, tout va bien. Et puis là, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors nous, on connaît bien le « allez et faites de toutes les nations des disciples », etc. Mais juste avant, c'est « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et c'est un moment clé dans la Bible. C'est un pivot très très important, théologiquement, bibliquement, mais aussi dans nos vies chrétiennes, de comprendre que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ sur la terre et dans le ciel. Et ça change tout. Ça fait écho au diable qui disait « tout pouvoir m'a été donné juste sur la terre d'ailleurs, lui ». Et là, ça fait écho et ça signe pour lui la fin. En fait, quand Jésus vient et il fait des miracles et chasse des démons, qu'est-ce qu'il prouve ? Il prouve qu'il est plus fort que le diable. Il prouve que le diable a trouvé un adversaire. Et il brise son autorité. Il brise le pouvoir du diable. Il le renverse et il dit « c'est moi qui règne à nouveau ». Et ça, c'est très fort. Daniel, le prophète, avait annoncé cela. Daniel 7, c'est le prophète qui a une vision et qui dit « Dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu dans les nuées du ciel. Et il s'est avancé vers l'ancien des jours, qui est Dieu. Et on lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle, qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » C'était annoncé. Et Jésus est venu, un peu le retour du roi, et puis il a dit au diable, c'est fini maintenant. C'est fini. Vous voyez que finalement, quand Jésus est venu, il n'est pas venu juste pour annoncer l'évangile du royaume, pour guérir les malades et tout et tout. Il est venu pour faire la guerre, pour prendre le pouvoir. Ça a ferraillé dur avec le diable. Et Christ a gagné. Est-ce que vous savez, petite devinette, pourquoi les chrétiens étaient persécutés par Rome ? Alors, soit vous êtes tous endormis, soit... Pas quelqu'un qui a eu une réponse ? Pourquoi les chrétiens étaient persécutés par les Romains ? Voilà. Parce qu'ils osaient dire « Christ est Seigneur ». Christ est Seigneur. Et ça, ça posait problème aux Romains. Parce que c'est César. C'est César qui doit être adoré. Il y avait un culte à César, en Rome. Et les chrétiens proclamaient « Christ est Seigneur ». Et en faisant ça, ils se plaçaient sous l'autorité de Christ et s'affranchissaient dans un sens de l'autorité de César, dans le sens qui plaçait Christ au-dessus de César. Et c'est ça que Rome n'a pas supporté. Les Juifs persécutaient les chrétiens parce que les chrétiens disaient que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ce n'était pas pour la même raison. Les Grecs se moquaient, ils n'ont pas persécuté, mais ils se sont moqués des chrétiens parce qu'ils disaient « mais ils sont stupides, ils ne font pas de philosophie, ils ne sont pas intelligents, ils croient simplement ». Mais Rome a persécuté parce que les chrétiens disaient « Christ est Seigneur ». Et en fait, Christ est Seigneur, Christ est roi, ça s'appuie sur ces passages que j'ai lus. C'est le cri du Nouveau Testament, c'est la grande vérité qui est proclamée. Et si on voulait résumer un slogan, le cri révolutionnaire qu'a amené Jésus, c'est « Je suis Seigneur, Christ est Seigneur ». C'était le slogan de la Révolution. Jésus dit à un moment quelque chose de très fort. Il dit « Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Il n'a rien en moi. Qu'est-ce que ça signifie cela ? En fait, le diable avait beau essayer, il ne trouvait aucun point d'appui dans la vie de Jésus, parce que Jésus n'avait pas de péché. Et du coup, il n'avait aucun moyen d'exercer une quelconque autorité, aucun moyen de pression sur Jésus, parce que Jésus était sans péché. Et le fait que Christ a l'autorité, que Christ nous sort de cette emprise du diable, fait que maintenant, nous chrétiens, nous pouvons dire comme Jésus que le diable n'a rien en nous. Ça veut dire que ses mains glissent sur nous comme si on était enduit de savon. Il n'arrive pas à nous agripper, il n'arrive pas à exercer son pouvoir sur nos vies. Et ça, ça le rend fou de rage. Et c'est pour ça qu'il nous fait la guerre. C'est écrit en Apocalypse. C'est pour ça, parce que nous lui échappons. Parce que un chrétien, c'est quoi finalement ? C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme un sauveur, mais plus que ça, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur. Et son Seigneur, ça veut dire « je reçois ton autorité », ça veut dire « je me place dans ton autorité », ça veut dire « je reconnais ton autorité dans ma vie ». Et en faisant ça, nous soustrayons à l'autorité du diable. Et le diable n'a plus de pouvoir dans nos vies. Et c'est dit, nous sommes dans la main du Père et nous ne sommes plus dans la main du diable. Et ça c'est bon. Alors si je résume le pouvoir et Jésus, je dirais royauté. Le roi est revenu. Alors, j'aboutis à la question finalement qui nous intéresse tous, c'est le pouvoir et moi. Le pouvoir et moi. Comment est-ce que je vis ? Comment nous vivons l'autorité aujourd'hui ? Quand on vous dit autorité, pouvoir, quels sont les premiers mots, les premières idées, les flashs que vous avez ? Moi, j'avoue que c'est les choses un peu noires qu'on peut voir, hein, les abus, les tyrans, les despotes, les Hitler et compagnie. C'est tous les trucs moches, en fait, qu'on rencontre et qu'on entend dans les informations, etc. Je pense que cette série... Dieu veut travailler nos cœurs et que c'est l'occasion de faire un point par rapport à cette question. Je pense qu'en tant que chrétien, on n'est jamais arrivé. On peut se dire, ouais, moi j'ai 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, je connais, c'est bon, j'ai réglé le truc. Je pense que si on est dans cette attitude-là, eh ben c'est pas bon, parce qu'on passe à côté. Parce que nos cœurs n'auront jamais de cesse d'être travaillés par Dieu. Et Dieu nous amène dans des choses toujours plus fines, plus fines, plus fines. Quand on avance avec Dieu, Dieu règle des péchés dans nos vies, mais c'est comme du débroussaillage. Il vire d'abord les grands arbres, tous les trucs qui apparaissent, les trucs vraiment évidents pour tous, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'après il continue, il commence à arracher des choses plus petites et de plus en plus petites. Et ça, c'est un processus qui dure toute notre vie. Donc peut-être que nous avons réglé certains problèmes vis-à-vis de l'autorité, mais ça ne s'arrête pas là. Et profitons de cette série pour laisser Dieu arracher encore des mauvaises herbes. Parce que nous avons tous des choses. Christ est Seigneur et cela change tout. Cela change tout dans le sens que nous pouvons exercer une autorité nouvelle. Et là, je voudrais partager un petit témoignage que j'ai vécu cette semaine. J'ai deux filles. Et cette semaine, il s'est avéré que une de mes filles avait un besoin vraiment urgent Et vraiment, ça m'a touché profondément, ce besoin. Alors, moi, je prie pour mes enfants régulièrement, et des fois, nos prières deviennent même presque mécaniques, parce que quand on prie tous les jours, ou quasiment tous les jours, mais qu'il n'y a rien de... Bah, des fois, ça devient un peu mécanique. Hein, enfin, vous comprenez, chacun vit ça. Mais là, c'était tellement poignant que ça touchait mon cœur que j'ai prié. Et j'ai prié vraiment avec autorité même. Je n'étais pas conscient de ça, mais j'ai vraiment prié ardemment. En 24 heures, Dieu avait répondu. Je ne veux pas dire pourquoi c'est, mais j'ai vu la réponse de Dieu et j'étais presque étonné. Ah, Dieu, il répond. Ah, la prière, ça marche en fait. C'est... Là, des fois, on a des coups comme ça qui nous réveillent. C'est juste qu'on sait, mais on les oublie parce qu'on ne les vit plus intensément. Et ah, Dieu avait répondu en 24 heures, ça m'a touché. Et deuxième problème, encore un autre problème. Deux fois, ça m'est arrivé dans la semaine. J'ai prié en moins de 24 heures. Une deuxième fois, c'était tellement rapide. Dieu a répondu, mais de manière tellement claire à ma prière. Ça m'a tellement encouragé. Je me suis dit, mais Dieu a fait de moi un papa et il m'a donné une autorité. Pas parce que je suis toine et que je suis chrétien et que je suis pieux, etc., champion dans la prière, absolument pas. D'ailleurs, vous deviez connaître ma vie de prière, vous serez peut-être étonné. Pas du tout. C'est pas à cause de ma piété que Dieu m'a exaucé. C'est parce que je suis en Christ et qu'il m'a fait découvrir la prière au nom de Jésus et que j'ai cette fonction de père. Et parce que Dieu m'a établi père, ma prière a une autorité. Donc, Christ et Seigneur changent tout, et en particulier notre autorité dans la prière. Si nous avons une responsabilité quelque part, et que nous prions sur un problème, dans cette sphère où nous avons une autorité, eh bien Dieu répond d'une manière particulière. Parce que Dieu honore l'ordre dans la création. Donc, si un enfant a un problème et que, je sais pas moi, un ami va prier, je pense que ce sera différent que si c'est son père ou sa mère qui prie. Parce que c'est lié à la fonction et que Dieu veille sur l'ordre. Et puis, Christ et Seigneur changent tout parce que cela nous invite à respecter, à nous soumettre à l'autorité avec une nouvelle lumière. Alors là, peut-être nos cœurs de Français ont besoin de Dieu pour ça. Il y a une onction spéciale sur la France. Je réalise que toucher à l'autorité, c'est toucher Christ. Si on est logique, Christ a reçu toute l'autorité. Si nous touchons à l'autorité, nous touchons à Christ. C'est Paul qui dit en Romains, les magistrats, respectez, soumettez-vous aux magistrats, parce que leur autorité vient de Dieu. Paul dit ça en Romains. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien ou pas chrétien qu'on va mesurer, on va le respecter. C'est les rois, les princes, les policiers, les enseignants, les juges, chacun a une certaine autorité, mais cette autorité ne vient pas des hommes. Elle a été établie par Dieu. C'est Dieu qui a donné aux juges, par exemple, l'autorité. C'est écrit noir sur blanc en Romains 13. Et quand nous touchons à ces autorités-là, quand nous nous révoltons, quand nous résistons, nous touchons à Christ. Nous ne touchons pas simplement à un juge ou à un policier. Et quand on parle mal d'un président de la République, on touche à Christ. On touche à Christ. Moi, j'ai toujours été agacé, mais depuis que je suis chrétien, j'ai toujours été touché, interpellé de quelle manière les élèves parlent de leurs profs. Je trouve ça effrayant parfois. Ils se permettent de dire des choses, une telle révolte. C'est insidieux parfois, les enfants, l'être humain, c'est bien tourner les mots pour faire mal, mais sans... On rigole, mais ça fait mal. On touche à l'autorité. Et nous, chrétiens, nous comprenons que quand on touche à l'autorité, quelle, où qu'elle soit sur la terre, on touche à Christ. Et là, il y a quelque chose d'important à réformer dans nos vies. L'autorité est un attribut de Dieu. L'autorité est une chose sainte. Ce n'est pas juste un petit truc humain que Dieu a donné aux hommes pour maintenir l'ordre. C'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Nous avons à respecter cela. Et je voudrais terminer ce message avec cette idée. C'est que Jésus-Christ a reçu toute l'autorité. Et que nous avons absolument besoin que nos vies entières soient placées sous son autorité pour nous épanouir. L'autorité de Dieu est là pour l'épanouissement de sa création, pour le développement, la construction de sa création. Autant nous avons besoin d'amour, autant nous avons besoin d'autorité pour être des hommes et des femmes droits, solides, forts. Alors, je voudrais juste terminer avec cette pensée, et même j'en fais un appel, c'est que nous puissions considérer que Christ est Seigneur, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je voudrais nous inviter à soumettre à nouveau notre vie. Et à l'entrée de cette nouvelle série, nous consacrer à nouveau et demander à son autorité de se révéler dans nos vies. Parce qu'il y a bien sûrement des endroits où son autorité n'est pas encore pleine dans nos vies, où il y a encore des résistances. Et je prie pour que ces résistances puissent être révélées et qu'on puisse les apporter à sa lumière et les placer sous son autorité. Et en faisant cela, le diable n'aura pas de prise sur nous. Moins en moins de prise dans nos vies et sur ce qui dépend de nous.